là, ça va être un petit moment devinette. Donc, c'est un film qui est assez vieux, qui est assez connu. Et ce film relate l'histoire d'un homme qui a refusé de courir aux Jeux Olympiques parce que l'épreuve qu'il devait courir était un dimanche. Alors, je l'ai entendu, oui, effectivement, c'est le film Les Chariots de Feu. Et ce personnage, c'est Eric Liddell. Et en fait, il a refusé de courir un dimanche. Et pourtant, il y a de nombreuses personnes qui sont allées le voir et qui lui ont dit « Mais tu dois courir. Tu n'as pas le choix, tu représentes ton pays, tu dois courir. » Il y a le prince de Galles qui est venu le voir en lui disant « Tu dois courir. » Et il lui a dit « Non. Non, non, parce que ce qui est plus important pour moi, c'est de plaire à Dieu. Et donc, je vais aller jusqu'au bout de mes convictions et je ne vais pas courir. » Et en fait, après, il a couru pour d'autres épreuves. Et il a remporté une médaille d'or pour les autres épreuves, enfin pour l'autre épreuve qu'il a couru. Et c'est vrai que moi, j'étais dans la préparation de cette étude sur Noé. Et quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, waouh, le mec, il est fort, quoi. Il a plu à Dieu. Il a choisi de prendre position. Et je me dis, si ce Eric Liddell, si cet homme-là nous inspire, qu'est-ce qu'on doit penser de Noé? Quand on regarde bien son histoire, qu'est-ce qu'on doit penser de Noé? Peut-être qu'on a entendu parler de Noé depuis qu'on est tout jeune, depuis les bancs de l'école du dimanche. Et parfois, on a tellement entendu parler qu'on finit par occulter la force de foi de Noé. Cette série sur Noé nous a rappelé le contexte de sa vie, son obéissance, cette façon qu'il avait de glorifier Dieu dans son quotidien en marchant par la foi. Nous avons eu la chronologie des événements du déluge, et quand on voit le peu de pages que ça prend dans la Bible, cette histoire de Noé, et qu'à côté on voit l'ampleur du phénomène de ce qui s'est passé au moment de Noé, on se dit que c'est pas du tout proportionnel. Moi, en tant que mathématicien, en tout cas, je me dis, ah, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus, quoi. Plus de détails, plus de choses. Et l'image de Noé qu'on a, c'est laquelle? Noé n'était pas un gentil barbu, tout mignon, qui est arrivé, qui a construit une petite barque pour 2 moutons et 3 chèvres. Noé, c'était une personne qui a passé plusieurs décennies à suer pour construire une arche gigantesque, alors qu'aucun signe météorologique n'annonçait de déluge. Et tout ça pourquoi? Parce que Dieu lui avait demandé. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est une question qui a une importance capitale et à laquelle Noé a su répondre avec foi. Vais-je suivre mes contemporains, leur avis, leur influence? Ou vais-je me soumettre complètement à Dieu pour avoir la faveur de l'Éternel? Il y a des personnes sur la plateforme YouTube, c'est une plateforme de vidéos pour ceux qui ne connaissent pas, il y a des personnes qui présentent des vidéos. Pendant longtemps, on les a appelées YouTubeurs. Maintenant, on les appelle des influenceurs. Pendant longtemps, l'idée qu'on puisse être influencé par le monde, c'était vrai, on le savait, mais ce n'était pas clairement affiché. Maintenant, on s'en cache même plus. Ah ouais, on cherche à influencer les gens. Nous, quelle est l'influence qu'on va recevoir? Et est-ce que dans cette influence, on va l'accepter en se disant « ouais, il n'y a pas de problème » ou alors est-ce que malgré tout, on va chercher à plaire à Dieu? Noé n'avait pas YouTube. Peut-être qu'il aurait eu un tutoriel pour comment construire une arche. Mais en tout cas, il a cherché à plaire à Dieu. Et il ne s'est pas laissé influencer. Qu'aurions-nous fait à la place de Noé? Dieu lui dit « Construis un bateau au milieu de nulle part. » Pas un petit bateau, un bateau énorme. Plusieurs commentateurs pensent que Noé, en fait, était fermier. Car en Genèse, chapitre 9, verset 20, il cultive la terre et fait pousser une vigne. S'il avait été charpentier, est-ce que Dieu aurait eu besoin de lui dire « N'oublie pas de bien mettre de la poix sur la coque pour l'étanchéité. » Et lui, il aurait pu dire à Dieu « C'est pas tellement mon métier. Peut-être qu'il y a un Ikea pas loin, on va essayer de monter un truc. Ou alors on le commande, on demande à quelqu'un de le faire à ma place. Mais enfin, moi, c'est pas mon boulot. » Non, Noé, il n'a pas dit ça. Il a dit « Ok. Construire une arche, ok. » Mon père est menuisier. Et jamais de la vie, j'irai lui demander de construire un bateau dont la taille, c'est, et là je me tourne vers Pierre pour qu'il puisse me confirmer ça, 40 fois le zoo de San Diego, si je ne me trompe pas. C'est ce que Pierre nous avait annoncé la dernière fois. C'est quand même un sacré bateau, quoi. Je me dis, c'est quelque chose... Déjà, je suis épaté quand je vois Marc qui a réussi à faire cette caisse de bois pour pouvoir rehausser. Parce qu'il a pas juste mis une caisse de bois pour qu'on le pose dessus, il a mis un truc où ça s'emboîte, etc. Enfin, c'est impressionnant. Et je suis déjà impressionné par ça. Qu'est-ce que je dois me dire pour Noé qui a construit une arche de 40 fois la taille du zoo de San Diego, en termes de capacité? Donc tout cela, comme on pourrait s'en douter, va bouleverser profondément la vie de Noé et de sa famille. Et aussi bien sur le plan de sa relation aux autres, de ses contemporains, que de sa relation à Dieu. Et c'est vraiment sur ces deux aspects que j'aimerais qu'on se penche. À la fois sur cet aspect social de Noé au milieu de ses contemporains et de sa relation aussi, l'aspect de sa relation personnelle avec Dieu. Noé était au milieu d'un monde corrompu. Que dire du monde dans lequel vivait Noé ? Ce monde était tellement corrompu que Dieu a décidé de le détruire. Il est dit dans la parole, « L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme ». C'est pas anodin quand même. Alors il se trouve que Dieu, ayant choisi de ne pas réitérer le déluge, on ne peut pas vraiment savoir comment était le monde de Noé par rapport à notre monde à nous. Mais l'analogie de Jésus qu'il fait en Matthieu chapitre 24, verset 37, entre le retour du Fils de l'homme et l'époque de Noé, laisse penser que les situations peuvent être semblables. Notre monde actuel est-il plus corrompu, que l'était celui de Noé ? Je ne sais pas. Mais je peux clairement affirmer que rien ne va pour le mieux. Dans le monde dans lequel on vit, rien ne va pour le mieux. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme. Et au milieu de tout ça, on se rappelle que Dieu a choisi Noé. Et pourquoi Noé ? Pierre nous l'a rappelé il y a 2 semaines, Genèse chapitre 6, versets 8 et 9. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Quelle présentation de Noé ! Est-ce qu'on n'aimerait pas, nous aussi, qu'on puisse parler de nous en ces termes un jour ? Un tel était juste et intègre. Waouh, quoi ! C'était quelqu'un qui avait trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est vraiment cette image-là qu'on garde de Noé. L'image d'un homme juste et intègre. Et si on réfléchit bien, on peut clairement penser que la réputation de Noé n'était pas aussi bonne auprès de ses contemporains à l'époque où il était vivant. Et je vois là un premier mot d'ordre pour nous. Un exemple à suivre, un challenge, un encouragement à être juste et intègre dans notre génération. Et vraiment, je pense que ce n'est pas facile. C'est un vrai défi. Rester juste et intègre dans ce monde, mais regardons l'état du monde. Regardons à quel point la morale est bafouée dans notre monde. Regardons l'égoïsme qui règne en maître. Regardons le mensonge qui est omniprésent. La méchanceté, la cruauté. Des choses qui sont autour de nous qui sont absolument dures. Et ça, c'est notre monde. Et pourtant, Dieu nous donne la possibilité de lui plaire à lui plutôt qu'aux hommes. Noé était dans un monde corrompu, à tel point que Dieu regretta d'avoir fait l'homme. Et Noé resta juste et intègre. C'est dans les ténèbres que la lumière brille le mieux. Si nous ne sommes pas là pour briller, alors pourquoi sommes-nous sur cette terre ? Matthieu chapitre 5, verset 13 nous dit « Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien, il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. » Matthieu 5, versets 13 à 16. C'est notre défi. Allons-nous le relever ? Acceptons-nous d'échapper au fatalisme qui saisit tant de nos contemporains ? Est-ce qu'on accepte d'être les ambassadeurs du royaume éternel ? Pour Noé, la vie de débauche de ses contemporains n'était pas une option. Il ne s'est pas dit « de toute façon, c'est trop dur de résister ». Noé a choisi Dieu avec conviction pendant ses 120 années de construction dont on nous parle. Et avant ça, déjà, il avait été choisi par Dieu pour une bonne raison. Notre vie est trop courte pour ne pas honorer Dieu. Dans le film « Les chariots de feu » dont je vous parlais en introduction, un des coureurs, à un moment, donne un papier à Eric Liddell, juste avant qu'Eric Liddell course à son 400 mètres. Il y écrit « J'honorerai celui qui m'honore ». Cela vient de 1 Samuel chapitre 2, verset 30. Honorons Dieu, et cela dans chaque chose. Qui n'a jamais entendu des phrases telles que « Personne ne te verra, fais-le ». Ah, si ça te fait du bien, alors n'hésite pas. Tu sais, il faut écouter ses désirs pour ne pas être trop frustré. Allez, lâche-toi un peu là. Oh, tu sais, c'est qu'un petit mensonge. Nous sommes sans cesse confrontés à la possibilité du compromis. Si personne ne me voit, et si personne ne le sait, quel tort cela peut-il causer ? Je sais qu'en tant que chrétien, je dois être un exemple, mais là, personne n'est au courant, alors c'est bon. Est-ce qu'on cherche à plaire à Dieu ou est-ce qu'on cherche à plaire aux hommes ? À la croix, Jésus a refusé le confort du vin et de la myrrhe qui étaient mêlés, qui étaient un anesthésiant. Il voulait accomplir pleinement sa mission. Il savait ce qu'il avait à faire. Est-ce que nous aussi, on va refuser le confort du compromis pour pouvoir accomplir pleinement notre mission? Être un exemple n'est pas un but de la vie du chrétien. C'est une conséquence. Plaire à Dieu et ressembler à Jésus-Christ, voici un but. Noé avait compris cela. Dieu était pour lui la seule référence, le maître étalon, comme on dit. Ce que pouvaient penser ses contemporains n'a pas eu d'influence pour lui sur l'accomplissement de sa tâche. Et pourtant, il y a une certaine logique qui s'installe dans le monde. Des personnes auraient peut-être essayé de lui faire renoncer dans sa tâche. Et on peut facilement imaginer le dialogue. Alors là, je me permets d'extrapoler un peu, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais imaginons le dialogue des personnes qui viennent voir Noé. Il est en train de construire son arche immense. Ils viennent le voir et lui disent « Maître, arrête d'être obtus là. Tu vois bien qu'on n'est pas en train de se noyer là, tout va bien. On n'est même pas à côté de la mer. » Puis ça fait des années qu'on te dit ça, ça ne sert à rien que tu continues. Si ça devait arriver, franchement, tu ne penses pas que ça serait déjà arrivé? Ton Dieu, il t'a donné cet ordre il y a combien de temps déjà? Plus de 100 ans? Ah écoute, il faut que tu arrêtes quoi. En fait, tu es un extrémiste. Comment ton Dieu pourrait-il être un Dieu d'amour et décider de détruire tout le monde? Noé n'a pas vécu de compromis. L'ordre de Dieu pour Noé ne lui permettait absolument pas d'être indécis. Soit il construisait ce bateau et acceptait de recevoir les critiques, les moqueries, le rejet et le dédain de ses contemporains, soit il laissait tomber et vivait sa vie comme si de rien n'était. Et cela avec des conséquences dramatiques. Genèse chapitre 1, verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est un verset qui est fort. La Bible foisonne de personnes qui, à un moment de leur vie, ont eu des choix à faire. Certains ont suivi Dieu quoi qu'il en coûte. Par exemple, dans les exemples auxquels j'ai pensé immédiatement, j'ai pensé au roi David. Le roi David qui, quand l'arche est entrée dans la ville, a commencé à danser pour honorer Dieu devant l'arche. Et sa femme, Michal, qui était la fille de Saül, le regarde et dit « Mais il est fou, lui. » Et la Bible nous dit littéralement, en 2 Samuel 6,16, nous dit que sa femme, Michal, l'a méprisé pour ça. Et lui s'en fichait. Ce qu'il voulait, lui, c'était plaire à Dieu. Il a voulu honorer Dieu. On peut aussi penser aux espions Josué et Caleb. Ils sont 12, ils partent, ils reviennent. Il y en a 10 qui disent « Non, 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 non. » Et eux disent « Oui, 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 oui. » Parce que eux, ils ont compris la promesse de Dieu. Ils ont cherché à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ils ont dit « Mais c'est génial les gars, il y a des gros raisins et tout, c'est top. » Et puis les autres, « Ouais, mais on va se faire défoncer quand même. » Mais eux, non. Parce qu'ils ont compris qu'ils cherchaient absolument à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit nous encourager. Il y en a d'autres, malheureusement, qui ont écouté la foule, qui ont cherché à s'attirer la faveur de la foule. Et on pense immédiatement à Pilate. Là, je vous prends un exemple d'une personne qui n'est absolument pas déclarée chrétienne, mais on voit clairement que Pilate, il s'en est lavé les mains. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour le culte de Pâques, David tout à l'heure nous a encouragé à ne pas se laver les mains et à prendre position. Et on ne peut pas faire semblant que ça ne nous regarde pas. Et que non, ça, c'est bon, ce n'est pas moi, je ne m'en occupe pas. La vie chrétienne est comme un train en marche qui gravit une montagne. Si on se décroche de la locomotive, le wagon de tête qui est Dieu, alors on ne va pas seulement stagner, mais on va redescendre. Et on ne peut pas prétendre que l'inaction est une solution viable. Il y a une personne, Edmund Burke, qui a dit « Ce qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. » En tant que chrétien, on sait que ça va plus loin que ça, mais que c'est déjà un début. Puis il y en a d'autres qui ont d'abord cédé et qui se sont repris. L'exemple le plus flagrant qui nous vient absolument rapidement en tête, c'est Pierre. Pierre qui a renié Jésus. Et il était à un moment où affirmer « Ouais, je suis disciple du Christ », ça pouvait avoir de fâcheuses conséquences. Et Pierre, à ce moment-là, il a choisi de plaire aux hommes plutôt qu'à Dieu quand il a renié Jésus. Mais par la suite, on voit un Pierre qui s'est repris et qui annonce devant les pharisiens qu'ils ont tué le Fils de Dieu, sans craindre pour lui-même. Il est avec Jean, il est devant le Sanhédrin, et voilà ce qu'il annonce. Alors c'est en Actes, chapitre 4, verset 8. Je vous lis ce passage parce que je trouve qu'il est absolument fantastique sur ce qu'il nous révèle du changement de comportement de Pierre. Il aurait posé cette question à lui et à Jean, « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, « Dirigeant de la nation et responsable du peuple, nous sommes aujourd'hui interrogés sur le bien que nous avons fait à un infirme et sur la manière dont il a été guéri. Eh bien, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons agi, de ce Jésus que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est grâce à lui que cet homme se tient là, debout devant vous, en bonne santé. » On a un Pierre qui, quelque temps auparavant, se retrouve devant des serviteurs, des personnes qui n'ont pas de pouvoir, et qui leur dit « Non, non, mais moi, je ne le connais pas, lui, je ne sais pas qui c'est. » Et quelque temps après, il se retrouve devant le Sanhédrin, et il dit « Mais c'est Jésus, c'est vous qui l'avez crucifié, et c'est au nom de ce Jésus qu'on a fait ça. » Enfin, il y a un changement radical. Pierre a compris qu'il valait mieux plaire à Dieu que plaire aux hommes. Et je pense vraiment que l'apôtre Pierre a été marqué par le récit de Noé. On voit que Noé est cité à deux reprises dans les épîtres de Pierre, en 1 Pierre et 2 Pierre. Et en tout, sur les deux épîtres, il y est fait référence 8 fois. Sur les 8 chapitres, référence 3 fois directement, excusez-moi. 3 références directes à Noé sur 8 chapitres. Donc je pense que Pierre a été impacté par la vie de Noé. Et il y a d'ailleurs plusieurs écrits de Pierre qui nous permettent d'effacer cette image d'un Dieu qui est cruel et qui a éradiqué sans broncher tous les hommes de la surface de la terre. J'avoue que j'ai, au début de ma vie chrétienne, eu parfois l'impression que Dieu était très dur, qu'il était presque méchant. Détruire tous les hommes ? Les hommes sont méchants, alors Dieu a décidé sur un coup de tête de s'en débarrasser ? N'y a-t-il pas une autre solution ? N'y a-t-il pas quelques-uns qui sont bons ? Et là, si on connaît un peu notre Bible, on repense à Sodome et Gomorre. S'il y en a des bons, Dieu est prêt à les sauver. Et ceux qui étaient dans l'arche, c'est ceux qui étaient bons et qui ont été sauvés. L'apôtre Pierre nous apprend deux choses. La patience de Dieu s'est prolongée pendant la construction de l'arche. Ça nous est dit en 1 Pierre chapitre 3 verset 20. Et je pense que 120 ans, ça n'est pas rien. C'est de la patience. On est très loin du coup de tête de Dieu qui décide de dire « Hop, tout le monde, ça passe à la trappe. » Et deuxièmement, Noé est appelé par Pierre un prédicateur de la justice. En 2 Pierre chapitre 2 verset 5. Noé ne s'est pas contenté de construire son arche en chassant les curieux. Il n'a pas répondu simplement à ses détracteurs en leur disant « De toute façon, tu n'as rien compris, va sur le côté, tu vas mourir, mais laisse-moi tranquille. » Non, ce n'est pas la façon dont Dieu procède. On l'a vu avec Jonas et l'histoire de Ninive. Dieu souhaite le salut de tous. Jean 3,16 nous le rappelle aussi. Noé a prêché la justice. Et cela ne devait pas être facile quand on pense que vous êtes un fou qui construit un bateau immense pour un déluge qui n'arrivera jamais. Mais il l'a fait. Il est devenu prédicateur de la justice. Et là, je pense que pour nous, en tant que chrétiens, dans notre époque, on a un deuxième challenge. Un challenge qui nous permet d'être tiré des leçons de vie que Noé a pu vivre. On ne se tourne pas égoïstement vers notre planche de salut sans parler de Dieu autour de nous. Quand avons-nous prêché la justice pour la dernière fois ? Quand avons-nous pris conscience que tous ceux qui sont autour de nous ne sont pas sauvés ? Ce n'est pas rien comme question. Nous sommes très exactement dans la situation de Noé. Nous avons ce salut en Jésus-Christ qui est notre arche. C'est Jésus-Christ qui nous permet d'échapper au sort funeste de celui qui n'est pas sauvé. Le déluge est une figure du baptême, nous dit la parole. C'est en Jésus que nous sommes baptisés. Nous vivons dans une génération perverse et corrompue. Elle est perverse et corrompue pas parce que toutes les actions de chacun, de ceux qui nous entourent, sont mauvaises, mais elle est corrompue parce que le péché règne et que le péché conduit à la mort. Et nous avons l'impératif devoir d'annoncer que la justice de Dieu condamne le péché, mais que par la mort de Jésus-Christ, la justice de Dieu peut être satisfaite tout en nous offrant le salut. Et cette solution, c'est Dieu lui-même qui nous l'offre. Je vais être parfaitement honnête avec vous, je ne sais pas comment Dieu procède pour toucher les cœurs quand nous ne sommes pas à la hauteur de cette tâche de prédicateur de la justice. Dieu est souverain. Et je ne pense pas qu'il ait de plan B. C'est un être omniscient qui est en dehors des contingences temporelles. Mais je sais que Dieu nous confie une tâche. Et cette tâche, c'est d'annoncer ce qu'il a fait pour nous. Sans se dire qu'il y en a un autre qui va assurer le service après-vente. Sans se dire que c'est quelqu'un d'autre qui le fera de toute façon et qu'on n'a pas à le faire. C'est notre mandat missionnaire. Allez, est faite de toutes les nations, des disciples. Ne nous décourageons pas, même lorsque c'est difficile de parler de Dieu, parce que c'est Dieu qui agit. Et lorsque c'est difficile d'ouvrir la bouche, d'accomplir ce que Dieu nous demande, alors on se rappelle ce verset. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu ? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes ? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. C'est Galates chapitre 1, verset 10. Il faut reconnaître que bien souvent, ce qui nous bloque, c'est la peur de ne pas plaire aux hommes. Ah, la personne est tranquille, je ne vais pas la déranger avec mes histoires. Ah, la personne ne m'a rien demandé, je ne vais pas lui en parler. On ne la dérange pas. On lui propose une arche, on lui propose de rentrer dans l'arche, parce qu'il y a le déluge qui arrive. Je vais vous raconter une histoire qui m'a vraiment ému. Cette histoire a commencé il y a plusieurs années dans une église baptiste à Crystal Palace dans le sud de Londres. Le dimanche matin, à la fin du service, un homme s'est levé et a demandé au pasteur s'il pouvait partager un témoignage. Le pasteur a regardé sa montre et lui a dit « Vous avez 3 minutes ». L'homme a alors commencé à raconter son histoire. « Je vivais à Sydney, en Australie, et je m'en allais pour visiter mes parents. En marchant sur la rue Saint-Georges, un étrange petit homme aux cheveux blancs est sorti d'un magasin, m'a donné un pamphlet et m'a demandé « Excusez-moi, monsieur ». « Êtes-vous sauvé si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel ?» J'ai été stupéfait par ces paroles. Jamais auparavant quelqu'un ne m'avait posé cette question. Je l'ai remercié avec courtoisie et en revenant à Londres, j'ai appelé un ami. Et merci Seigneur, il était chrétien et il m'a conduit à Christ. Après ce témoignage, tout le monde a applaudi et lui souhaite la bienvenue parmi eux. Le pasteur Francis Dixon de Londres s'est rendu plus tard à Adélaïde, en Australie, pour une convention. Une femme est venue vers lui pour avoir quelques conseils. Le pasteur voulait savoir où elle en était dans sa vie chrétienne. Elle lui a dit « Il y a quelques mois, j'étais en visite à Sydney pour voir des amis et faire quelques achats de dernière minute sur la rue Saint-Georges. Un étrange petit homme aux cheveux blancs m'a donné un pamphlet et m'a dit « Excusez-moi, madame, êtes-vous sauvée ? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel ?» J'ai été troublé par ces paroles. Quand je suis rentré à Adélaïde, je savais qu'il y avait une église baptiste près de chez moi. J'ai cherché le pasteur qui m'a conduit au Seigneur. Alors je peux vous affirmer que je suis vraiment chrétienne. Le pasteur de Londres était très perplexe. Il avait entendu les mêmes témoignages 2 fois en 2 semaines. Il a ensuite pris l'avion pour prêcher l'évangile à l'église de Mount Pleasant. Le responsable de la convention lui a alors raconté son salut. « J'ai grandi dans une église baptiste depuis l'âge de 15 ans, mais je n'avais jamais pris d'engagement réel pour Jésus. Je suis devenu un homme d'affaires influent, et il y a 3 ans, j'étais en voyage d'affaires à Sydney. Un étrange petit homme aux cheveux blancs m'a donné un pamphlet et m'a dit « Excusez-moi, monsieur, êtes-vous sauvé ? Si vous mourrez ce soir, irez-vous au ciel ?» J'étais en colère après lui. Parce que je me disais que si j'allais dans une église depuis l'âge de 15 ans, j'étais sûrement sauvé. Mais en vérité, je n'avais pas de relation personnelle avec Jésus. Je suis allé voir mon pasteur qui m'a amené à Jésus. Le pasteur Francis Dixon de Londres fut ensuite invité à une convention à Keswick, dans le Lake District. Et il a raconté ses 3 témoignages. 4 personnes âgées sont arrivées vers lui et lui ont témoigné qu'elles avaient toutes été évangélisées. Il y a plus de 25 à 30 ans par le même petit bonhomme de la rue Saint-Georges qui leur avait offert un pamphlet en leur posant la même question. La semaine suivante, le pasteur est allé dans une autre convention aux Caraïbes. Il a partagé les mêmes témoignages à la fin de son enseignement. Pendant 3 missionnaires ont déclaré qu'ils avaient également été évangélisés entre 15 et 25 ans plus tôt par le même petit homme de la rue Saint-Georges, à Sydney, en Australie, et avec la même question. Le pasteur Francis Dixon s'est ensuite rendu à Atlanta pour parler à 1000 marins. Le général lui a alors raconté exactement la même histoire. Quand son bateau, était à Sydney en Australie, il a été boire un coup, et saoul, s'est trompé d'autobus et s'est retrouvé sur la rue Saint-Georges. On se doute de la suite de l'histoire. C'est pas fini. 6 mois plus tard, je vous promets, ça, c'est impressionnant. 6 mois plus tard, le pasteur Dixon se rend en Inde pour une conférence où il y avait plus de 5000 missionnaires. Il a rencontré le responsable de la mission, un ancien diplomate. Ce dernier lui a raconté comment, lorsqu'il était à Sydney, un homme l'a abordé en lui posant la même question. En revenant en Inde, il allait voir un prêtre hindou pour avoir une explication, mais ce dernier ne pouvait pas l'aider. Et pour satisfaire sa curiosité, il l'a envoyé de l'autre côté de la rue vers un pasteur baptiste. Ce dernier l'a amené à Christ. Il a quitté l'hindouisme immédiatement, et aujourd'hui, il est, par la grâce de Dieu, en charge de tous ses missionnaires. Et ils ont conduit plus de 100 000 personnes à Christ. 8 mois après, le pasteur Dixon est allé prêcher à Sydney en Australie. Il en a profité pour se renseigner, afin de connaître ce petit homme qui témoigne à tout le monde. Le pasteur de l'église locale lui a dit qu'il s'agissait de M. Jenner, mais qu'il était rendu trop vieux maintenant pour se tenir sur la rue Saint-Georges et donner des pamphlets. Il a tout de même arrangé un rendez-vous entre M. Jenner et le pasteur Dixon. Le pasteur Dixon a donc rencontré M. Jenner et lui a raconté tous les témoignages qu'il avait entendus depuis 3 ans. Des larmes ont commencé à couler le long des joues de ce petit homme frêle. M. Jenner a ensuite témoigné au pasteur comment il était venu à Christ et comment Dieu avait transformé sa vie. « J'étais sur un navire de guerre australien, je vivais une vie dépravée. Et à un moment de crise, j'ai vraiment touché le fond. Un de mes collègues, que j'insultais, était quand même là pour m'aider. Il m'a conduit à Jésus. Et le changement dans ma vie a été radical en seulement 24 heures. J'étais tellement reconnaissant à Dieu que je lui ai promis de partager Jésus très simplement et à au moins 10 personnes par jour en leur donnant un pamphlet. Quand Dieu lui donnait la force, il le faisait même s'il était souvent rejeté. Or, en 40 ans, il n'avait jamais entendu qu'une seule personne soit venue à Jésus. Ce petit homme a témoigné à peut-être 147 000 personnes sans jamais voir de résultat. Dieu s'est servi du pasteur de Londres pour l'encourager. Monsieur Jenner est mort 2 semaines plus tard. Et quel accueil il a dû recevoir au ciel. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que ce petit homme aux cheveux blancs a choisi de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il n'a jamais pu dire dans son église, arriver et dire « Voilà les personnes que j'ai amenées à Christ. Voilà les fruits de mon ministère. » Mais il a continué à faire ce qu'il faisait parce qu'il souhaitait plaire à Dieu et que ce qu'il faisait a une portée éternelle. Noé, par son obéissance, par son choix de plaire à Dieu, a aussi eu une portée éternelle. Peut-être que nous ne verrons jamais les fruits de notre obéissance, mais notre récompense est de savoir que si nous plaisons à Dieu, alors nous sommes serviteurs de Christ. Quelle influence ont eu ces 120 ans d'obéissance sur Noé dans sa relation avec Dieu ? Et ça, c'est notre deuxième partie qui sera plus courte, je vous le rassure. Noé, dans sa relation avec Dieu, a évolué. Il a passé 120 ans, à partager sa vie entre la construction d'une arche et la prédication de la justice à ses contemporains. On ne peut pas vivre ça et ne pas développer une profonde communion avec Dieu, une profonde intimité. Sans cette intimité, Noé aurait sûrement fini par se demander s'il n'avait pas juste rêvé un peu l'orbe de l'éternel, quoi. Il y a plus de 100 ans, il m'a dit de faire un truc. Je ne l'ai pas rêvé le truc ou j'étais sobre quand j'ai entendu ça. S'il n'avait pas eu cette intimité, est-ce qu'il n'aurait pas fini par remettre en cause tout ce qu'il avait entendu? Quand Noé a choisi de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, il a choisi de développer sa relation à Dieu plutôt que sa réputation dans un monde corrompu. La foi est l'un des moteurs essentiels de toute action entreprise pour Dieu avec un cœur sincère. Romains 10, 17 nous dit ainsi « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » La communion, l'enracinement en Christ permet de développer un attachement qui est semblable à celui de Noé. Bien souvent, je regarde la vie des grands hommes de Dieu. On lit des biographies et on reste abasourdi. En tout cas, c'est mon cas. Je reste abasourdi comme un enfant qui admire les héros de l'ancien temps, en me disant que ça doit être merveilleux de vivre une si grande intimité avec Dieu. Et je réalise trop peu que Dieu ne reste pas voilé. Qu'il a déchiré le voile, il s'est rendu accessible et il me permet de vivre une proximité avec lui. Imaginons Noé en train de rentrer dans l'arche avec tous ses animaux. C'est Dieu qui ferme la porte et il se retrouve là avec une petite fenêtre. Pour combien de temps? Il ne le sait pas. 2 mois? 3 mois? Non, plus d'un an. La pluie tombe encore et encore. Tout ce qu'il a connu toute sa vie durant est en train d'être recouvert par les flots. Mais Noé est là parce que sa communion avec Dieu, sa vie de juste intègre, l'a conduit à être choisi par Dieu pour redémarrer l'humanité. A-t-il jamais eu des doutes? S'est-il déjà demandé si son dur labeur pour construire cette arche était bien raisonnable? La Bible ne le dit pas. Mais il a construit une arche. Il a accompli la mission que Dieu lui avait donnée, car il souhaitait plaire à Dieu. À la fin du déluge, Noé ne sort pas de l'arche en disant « Enfin, c'est bon, je suis sorti de cette coquille de noix, quoi. Il était temps, Seigneur, franchement. » Non, non. Il sort et qu'est-ce qu'il fait? Il construit un autel pour offrir un sacrifice en l'honneur de l'Éternel. Il n'a pas considéré que c'était normal qu'il sorte enfin après tout le mal qu'il s'était donné pendant toutes ces années. Non. Il a juste souhaité honorer Dieu, car en toute chose, il voulait plaire à Dieu. Nombreux sont ceux parmi nous qui connaissent bien ce passage dans Hébreux 11. Et je vais en lire une petite partie, mais j'aimerais reprendre juste avant, sur le chapitre 10 au verset 35. Donc Hébreux chapitre 10, verset 35. « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et le juste vivra par la foi. » Mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui ont la foi pour le salut de leur âme. Et maintenant, on est au chapitre 11, verset 1, et je vais lire le verset 1 et le verset 7. « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elles que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. C'est par la foi, verset 7, que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. En donnant notre vie à Christ, on a fait un pas en avant. Ne revenons pas en arrière. Lorsque Noé a coupé le premier arbre, lorsqu'il a commencé à poncer la première planche, lorsqu'il a posé la première poutre, il a fait ce pas en avant qui faisait plaisir à Dieu. Il s'est positionné. Tant qu'il n'avait pas commencé la construction de son arche, il n'était pas encore positionné. C'est quelque chose qui se passait entre Dieu et lui. Dieu lui avait dit de construire cette arche. Au moment où il a commencé son chantier, il était en train de déclarer à la face de tous ceux qui l'entouraient, « Je suis prêt à répondre de ma foi en Dieu. Et tous ceux qui me le demandent auront la même réponse, car j'ai une intimité avec Dieu. Et c'est ça qui me pousse à obéir. » Quel exemple de confiance. Noé était rempli d'une crainte respectueuse. Il ne voyait pas Dieu comme un Dieu méchant et apeurant, mais comme un père. Et pourquoi le voyait-il comme ça, alors que Dieu venait de détruire presque toute l'humanité? Car il connaissait Dieu, il connaissait son Dieu. Il savait qui était Dieu, parce qu'il avait développé une profonde intimité avec Dieu. Si nous aussi nous voyons Noé comme un héros de la foi, un modèle sur lequel nous pouvons prendre exemple, alors acceptons ce défi de l'intimité avec Dieu. Nous avons vu dans notre première partie tout ce que Noé a pu vivre et a pu faire au milieu des gens de son époque. Comment il a pu tenir le cap dans l'obéissance à Dieu. Comment il a pu prêcher la justice de Dieu. Et tout cela a été rendu possible parce qu'il avait une vie profondément liée à Dieu. Dans son intimité avec Dieu, Noé a aussi appris à abandonner ce qui est secondaire pour se concentrer sur l'essentiel. Un peu à la manière d'un saumon. Alors là, je voulais vous faire votre petite minute Arte, hein, pêche et nature. Le saumon est un poisson qui naît en eau douce, près des sources, et puis qui descend instinctivement jusqu'à la mer, l'océan Atlantique, où il vit 1 à 3 ans, avant de retourner dans le fleuve dans lequel il est né, pour se reproduire et généralement mourir après la ponte. En fait, le saumon remonte à contre-courant, plutôt que de se laisser porter. Il remonte à contre-courant, il accomplit sa mission, et bien souvent il meurt. Alors comme toute image, celle-ci a ses limites. Mais pensons à Noé, qui tout comme le saumon a dû vraiment nager à contre-courant dans son époque, et qui pour accomplir sa mission a laissé mourir de nombreuses choses. Et je vais vous expliquer ce que j'entends par là. Nous aussi, nous sommes appelés à laisser mourir certaines choses, pour cette mission de plaire à Dieu. Peut-être allons-nous devoir abandonner le désir d'être populaire, le désir d'être riche, le désir d'avoir une vie paisible. La relation que Noé a développée avec Dieu lui a permis de renoncer à ces choses sans regarder en arrière. Il est monté dans cette arche et il a honoré Dieu. Il a choisi d'être comme ce saumon plutôt que de se sentir banalement comme un petit poisson dans l'eau au milieu de ses contemporains. On arrive à la fin de ce moment de prédication. Mais personnellement, j'aimerais vraiment qu'on retienne ce verset que je vous ai répété un certain nombre de fois et que ça devienne notre leitmotiv. Je vais le répéter encore une fois parce que je n'arrive pas à m'en lasser. Maintenant, donc Galates chapitre 1, verset 10, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Nous vivons dans ce monde qui est le nôtre, mais nous ne sommes pas du monde. Dieu nous appelle à lui plaire en toutes circonstances. Ce que l'on peut retirer de cette histoire de Noé, c'est la force de caractère que donne une foi solidement arrimée à Dieu. Une foi qui permet d'accomplir des choses qui sont complètement folles, comme construire une arche, comme être juste et intègre au milieu d'une génération corrompue. Une foi qui permet même après des épreuves et des déluges de plier le genou devant Dieu et de l'honorer dans cette crainte respectueuse qu'il mérite. Développons cette intimité avec Christ qui nous fera tellement déborder de l'amour de Dieu pour nous que nous en deviendrons des prédicateurs de la justice dans notre quotidien. Tout comme Noé, ne regardons pas ce que l'on risque de perdre, mais regardons ce que nous gagnons dans notre communion avec Dieu. Et quoi que nous fassions, faisons tout pour la gloire de Dieu.